à te remercier parce que tu n'es pas simplement qu'un simple journaliste, tu es un grand monsieur, mieux qu'un monsieur, il n'y a pas de mots, un père, un grand frère, et je te remercie juste pour m'avoir donné l'opportunité d'être avec toi dans Fou de Sport. Mmh. Et pour ça, ça n'a pas de prix. Je tenais à te remercier avec la famille que tu connais. Donc, merci beaucoup.
Alors, avant de... Avant de...
Il aime ça, moi. Hein.
Non, mais non, c'est même pas ça, coach.
Ah, si.
Il y a autre chose que Yanis a oublié. Le message pour l'équipe d'Algérie féminine de football.
Bien sûr, c'est ça aussi, très important.
Qualifié pour les quarts de finale de la CAN au Maroc.
Bien sûr, je tiens vraiment à saluer l'ensemble de l'équipe algérienne féminine de football qui s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique, pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique au Maroc. Plein de bonnes choses à eux, et nous on les suit et on les suivra encore dans les années, dans les mois, dans les jours à venir sur l'antenne de Beurre FM, parce qu'on est sur le média de la diversité qui représente toute cette diaspora, toute cette diversité et toute cette équipe qui nous fait vibrer en tant qu'Algériens. Donc merci à eux. Et merci à toi.
19h passé d'une minute, l'heure de la deuxième heure de Foot de Sport, comme je vous l'ai promis, consacrée à un footballeur qui a marqué aussi son temps, mais avec une carrière, comment dirais-je, alambiquée.
Fou de Sport avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Deuxième heure de Fou de Sport, comme vous le savez, 19h, 20h, cette fois-ci, on accueille un ancien footballeur, ancien international algérien. Il a bien voulu répondre à notre invitation parce que ça fait aussi un bout de temps que je cherchais, que je le recherchais plutôt. Et au final, voilà, il nous a dit « Ok, je viens et on va se dire tout ce qu'il faut ». C'est Omar Belbey que je suis ravi d'accueillir. L'interview sera réalisée avec Yanis. D'abord, je salue juste Omar comme ça. Bonjour Omar, ça va ?
Oui, bonsoir Mohand, oui, bonsoir ouais. Yanis, bonsoir à tous les auditeurs, ça va très bien, merci.
Bon, très bien. Et également Yanis, bonsoir Yanis.
Bonsoir Mohand, bonsoir à l'ensemble des auditeurs et des auditrices de Beurre FM, le média de la diversité en France. Comme tu l'as dit, ça faisait longtemps qu'on cherchait à avoir Omar Belbey. Il a accepté l'invitation, donc on est là avec lui pendant une heure pour retracer un petit peu toute sa carrière et ce côté aussi de la reconversion qui va être aussi un beau volet à aborder dans cette émission.
Une deuxième heure, comme je vous l'ai dit, exceptionnelle aussi pour un podcast vacances. On va commencer, Yanis, d'abord par dresser le portrait d'Omar avant de rentrer dans le vif du sujet.
C'est ça, Omar Belbey, tu es né le 7 octobre 1973 à Rouen, en France. Tu étais un footballeur, tu évoluais au poste de milieu de terrain défensif au milieu des années 1990 jusqu'au milieu des années 2000. Tu as été formé au FC Rouen, au FCR. Ensuite, tu partiras à Nîmes, tu feras un passage à Montpellier. Et ensuite, tu nous raconteras l'après de ta carrière après Montpellier, parce que c'est aussi intéressant de l'entendre par tes propres mots. T'as plus de 29 sélections avec la sélection algérienne de 2000 à 2002. Ta carrière a pris un tournant lors de la Coupe d'Afrique 2002, où t'étais titulaire dans l'équipe nationale algérienne. Et le dernier match contre le Mali, mais t'as subi un tacle assassin par Mamadou Diarra, un ex-international malien, qui est passé notamment par le Real Madrid et qui t'a blessé sérieusement au genou. Après cette Coupe d'Afrique 2002, ta carrière va prendre une tournure assez spéciale. Tu y reviendras. Aujourd'hui, tu t'es un petit peu mis en dehors du terrain, même si tu gardes un petit peu ton pied gauche, ton pied droit et un œil. Et aussi, on l'oublie pas, Omar Belbey, c'est la Coupe de France. C'est ce match au stade de France, c'est ce but face à la JOCR, qui était champion de Ligue 1. Un but magnifique que tu nous décriras après tout à l'heure. Est-ce que j'ai tout dit, Omar ?
Je dois dire que là, t'as fait un 10 sur 10. Et félicitations pour le cursus. Parfait.
Alors, Omar, on va commencer par l'enfance. Hein. Quand on veut devenir footballeur, je ne t'apprends rien en disant il y a beaucoup de candidats, mais il y a très peu d'élus.
Exactement, c'est le terme exact. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, parce qu'il y a énormément de gens qui veulent tous jouer au football petit. Seulement, après, ça demande de... ça demande beaucoup d'investissement, ça personnel, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et au final, on se retrouve dans un centre de formation, juste aux portes d'entrée du professionnalisme, et on est à peu près une trentaine de gamins, puisqu'on a entre 15 et 17 ans, Et là, le coach arrive en début de saison et sort trois bouts de papier qui sont des contrats professionnels. À l'époque, c'est ce que nous avait fait Daniel Zorzetto.
Je me souviens de lui, oui.
Voilà, exactement, avec son acolyte Nasser Largué, qui était un très bon formateur, ceci étant dit. Et le coach vous dit, ben voilà, messieurs, à vous de jouer, il y a trois contrats pour la fin de l'année, mettez tout en œuvre pour essayer de le décrocher.
3 sur 30.
3 sur 30, c'est ça.
Et si jamais on n'est pas dans cette liste, on fait quoi ?
C'est compliqué, on sort du club où on est, on va chercher ailleurs une possibilité d'intégrer une autre équipe professionnelle, une autre équipe réserve, ou alors il y a l'alternative, la passerelle de redescendre d'un cran. Et puis peut-être à travers des matchs de Coupe de France comme j'ai pu effectuer, ou des matchs à côté de clubs professionnels d'un point de vue géographique pour être repéré, qui sont aussi des alternatives.
Tu étais dans la shortlist ?
Alors
les fameux trois.
Au départ, pas du tout, hein, parce que j'étais le plus jeune. J'étais le plus jeune au centre de formation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais 17 ans et les plus vieux avaient 20 ans. Et en fait, si je remonte un petit peu avant, c'était un peu particulier parce que papa-maman avaient décidé en 87 de rentrer en Algérie définitivement. Et moi, j'avais annoncé à l'époque à mon entraîneur que j'allais partir en Algérie. Et lui pensait que c'était pour des vacances. Et il m'a demandé quand est-ce que je revenais. Et je lui ai dit, en fait, je reviens pas. Il comprenait pas, donc il est venu voir papa, maman, les solliciter une première fois, donc la réponse a été catégorique, non, mon fils il vient avec moi. Deux fois, trois fois, et au bout de trois fois, quand mes parents ont senti qu'ils étaient vraiment intéressés par le fait d'eux, ils ont écouté, maman a vraiment réussi à convaincre papa parce que il était... Hors de question, peut lui.
Voilà, lui, c'est un DZ pro.
Voilà, c'est ça, le DZ dans toute sa splendeur, c'est je sais, toi tu sais pas. Voilà. Oui. Après, je peux le comprendre, on a du mal à laisser un enfant, son enfant de 13 ans, on sait pas ce qui va se passer et tout, mais bon, ils l'ont rassuré sur les conditions d'hébergement, de prise en, charge.
Oui.
Parce que, ben, en fait, ils avaient pris l'internat en charge à Fontenelle à l'époque, et je rentrais chez tonton Mohamed, Allah yirhamo, le week-end. Ouais. Voilà.
Et finalement, tu es resté et tu as été retenu.
C'est ça. Donc, je suis resté, j'ai fait mes classes et arrivé à cette fameuse année où le coach dit qu'il y a trois contrats à la fin de l'année et tout ça, j'ai commencé un petit peu à vraiment sentir que le football, c'était quelque chose qui pouvait bien m'aller. J'avais des capacités. Et j'avais surtout un fort tempérament qu'il a fallu à beaucoup de reprises canaliser. Et les coachs m'y ont beaucoup aidé. Et c'est ce qui m'a permis d'aller décrocher ce contrat et de signer professionnel.
Parce que un numéro 6, je le précise, Omar, pour ceux qui écoutent cette émission, moi je me rappelle des 6 qui étaient costauds. Le dernier en date, c'était Adeline Guedjura en Coupe d'Afrique. Il y avait à une époque Qassi Saïd, c'était une vraie teigne sur un terrain. Et moi, je te compare un petit peu à Qassi Saïd.
Bah, la comparaison est pour moi un honneur, parce que vous parlez quand même de joueurs qui ont évolué au très très haut niveau, à savoir Qassi Saïd ou Guidouera. Ouais. Et c'est vrai que c'est un poste particulier qui n'était pas du tout le mien. Parce que j'étais plutôt numéro 10.
D'accord.
Et je savais pas tacler jusqu'à mes 16 ans. Donc après, ils ont vu que j'avais quand même des capacités physiques au-dessus de la moyenne. Physiquement, j'étais plutôt bien. Et ils m'ont appris ce rôle de harceler, de, voilà.
Donc tu faisais ce qu'on appelle un gros abattage.
Voilà, un gros abattage. Et j'étais aussi, quand il fallait faire du marquage individuel. Alors, il y a eu, par la suite, Vicage Dorasso, que je connaissais très bien, Marcelo Gallardo, il y a eu Ronaldinho, JJ Okocha, c'est lui qui m'a rendu le plus fou sur un terrain, d'ailleurs.
Ah, oh, c'est un super, super.
Et puis notre Zizou national, lorsqu'on a pu jouer
au Stade de France
et en match amical avec Montpellier à Alicante contre Madrid.
Ouais, c'est vrai, t'as joué deux fois, il me semble, contre Zidane.
C'est ça, en l'espace d'un mois, j'ai joué deux fois.
Et... en sélection et en club.
C'est ça. Et c'est un plaisir pour les yeux, un honneur, parce que il reste un des Z, ce qu'il a toujours revendiqué, même s'il a, qu'il a joué en équipe de France, hein, c'est pas le souci. Mais c'est vraiment un autre football, c'est une autre planète.
Mais je pense qu'il y a une petite anecdote avec Zidane. Parce que quand tu joues avec lui en sélection, tu lui as demandé son maillot, il me semble. Et après, il devait le donner à quelqu'un d'autre. Et tu vas jouer avec lui, Montpellier-Real Madrid, donc en match amical. Et là, c'était un joueur en interview qui le raconte très bien. Vous pouvez retrouver l'interview sur YouTube. Et là, il se tourne derrière, il te touche l'épaule. Il te dit, tiens Omar, je t'ai pas oublié.
Ouais, alors c'est exactement ça, seulement à la mi-temps du match amical Montpellier-Real Montpellier à Alicante. Donc je discute avec lui parce que c'est un Algérien et puis c'est surtout Zidane quoi. Ouais. Donc je lui dis que je suis international algérien et tout ça, il me dit super et tout, j'ai fait écoute j'ai fait si c'était possible de récupérer ton t-shirt pour mon fils et tout ça. Et là, il y a Loulou Nicolin qui arrive en trombe.
Parce que lui, il adore les maillots, Nicolin.
Voilà. Et j'ai pas eu le temps de dire ouf, quoi que ce soit et tout. Il me l'a arraché des mains. Et en fait, Zizou, il m'a dit, à la fin du match, on a deux jeux de maillots. Viens me voir à l'entrée du vestiaire et puis je te passe le deuxième t-shirt. Seulement, comme c'était le premier match de Zizou sous les couleurs du Real, il y avait juste tout le stade qui était devant le vestiaire du Real de Madrid.
Et comment t'as fait alors ?
Eh ben, j'ai fait demi-tour et je suis rentré dans mon vestiaire. Et un mois après, on était à l'entrée dans le couloir là au Stade de France. On allait rentrer sur le terrain donc. Et il y a cette main qui se pose sur mon épaule et c'est Zizou qui me dit je suis désolé pour ce qui s'est passé. Voilà. Et il me dit à la mi-temps, viens, je te passerai
le. À la mi-temps.
Voilà. Donc j'ai trouvé ça super et puis ça m'a pas étonné en même temps de.
Non, mais Zizou, tu te rends compte que c'est valeur humaine qu'il avait, il n'a pas oublié.
C'est ça, c'est ce côté humilité, c'est ce côté. Pour ma part, je tends vraiment l'oreille pour l'entendre parler parce que il parle doucement, il est très tranquille.
Ça, c'est vrai.
Et c'est assez paradoxal avec le tempérament qu'il dégage sur le terrain, quoi, en fait. Parce que c'est une cocotte minute, hein, faut le savoir, hein, quand il est.
Ah, sur un terrain de foot, ça peut être un vrai chien.
Ouais.
Un harceleur, mais quand il est en dehors du terrain, c'est quelqu'un de simple.
C'est.
Timide. Ça reste Zinedine.
C'est exactement ça, Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la super anecdote. Alors, maintenant que, une fois que tu as signé à Rouen, tu as été, on va dire, reçu, hein, avec une belle mention. Mm-hmm. Est-ce que tu te souviens des autres joueurs qui ont eu droit à ce premier contrat, pardon?
Alors, oui. Il y avait Olivier Quin.
Ouais.
Qui a après évolué à Sedan, à Nantes. Et il y a eu Arnaud Marguerite,
d'accord,
qui était formé à la SMCB du Château Blanc, qui a joué après du côté de Niort, de Wascal. Il a fait sa carrière en tant que gardien de but, tout simplement. Bon, après, des joueurs qui sont arrivés après, quand j'étais pro, il y a eu mon ami Michel Djorkaeff, le petit frère
à Yuri,
ouais, voilà. Il y a eu Dado Porcho, avec qui j'ai gardé beaucoup de contacts.
Je me souviens de lui.
Ouais. Très fort, très fort, un joueur pétri de qualité. Et voilà, il était jeune à l'époque, il avait un petit peu des à côté en termes d'hygiène de vie qui collait pas avec le football. Mais après, il a fait une super carrière quand il est parti à Monaco, Ajaccio et en Écosse, je crois.
Ouais, Omar, c'est là qu'on voit le sérieux. Quand on veut être footballeur professionnel, en gros, l'hygiène de vie, qui est primordiale si on veut vraiment réussir à un très haut niveau.
C'est exactement ça, Mohamed, tu l'as dit, l'hygiène de vie, ça comporte quoi ? Ça comporte l'alimentation, ça comporte le repos, ça comporte l'hydratation, on ne peut pas boire n'importe quoi, on ne peut pas manger n'importe quoi, et c'est surtout qu'il faut énormément de repos. Voilà, pas hésiter à faire une sieste après les entraînements l'après-midi, avoir un sommeil régulier, à des heures régulières. Et puis, quand on arrive à mettre tout ça en œuvre, eh ben, on se donne la possibilité de pouvoir percer.
C'est un programme qui est dicté par le staff du club, c'est ça, hein ?
Exactement.
Sinon, seul, on peut pas y arriver, on a besoin d'un cadre.
Exactement. Alors. Exactement, tu l'as dit parfaitement, c'est ça, c'est tout à fait ça. On est dans un cadre où au centre de formation, on apprend à devenir footballeur professionnel. C'est pas que le côté technique du terrain, bien heureusement. On a même eu des cours de ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle d'interview, où on nous apprenait à répondre aux questions.
D'accord.
Parce que ça arrive des fois d'avoir la langue qui fourche. Mais au-delà de ça... c'est un métier passionnant parce que on a la chance de d'apprendre ce métier avec tous ses à côté.
Fin de cette première partie de d'émission. Restez à l'écoute. On se retrouve dans quelques instants pour cette interview passionnante avec Omar Balbé jusqu'à 20h sur Beurre FM.
Faux de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Le Futuroscope, c'est ce lieu extraordinaire où le réel et l'imaginaire se côtoient. Ici, vous pourrez rejoindre Mars en roller coaster ou sauter dans une tornade. Vous glisserez sur d'incroyables toboggans et plongerez dans un parc aquatique aux mille et une couleurs. Au Futuroscope, sur votre imagination sera votre seule limite. Futuroscope Expérience.
Retenez votre souffle. Plongez dans l'Aquascope et le meilleur parc aquatique au monde. Et réservez dès maintenant sur futuroscope.com.
Beurre FM, bien plus qu'une radio. Jusqu'à 20h. Fou de sport. Sur Beurre FM. Beurre FM.
Retour sur le plateau de Fou de sport en compagnie de Yanis et de Omar Belbé, invité exceptionnel de cette émission jusqu'à 20h. Parcours club, Omar, le FCR, t'es resté combien de temps?
Alors, le FCR, je l'ai intégré en 1985 en minime, et j'y suis resté jusqu'à la saison 94-95. Je crois que c'était la dernière saison, puisqu'après, ils ont déposé le bilan.
C'est ça qui est malheureux. Je voulais y revenir avec Mohand aussi. Omar, tu vas quitter le FCR, parce qu'en plus, ce qui est le plus triste dans l'histoire, enfin, pour une courte période, tu vas te retrouver au chômage, parce que le FCR va être en liquidation judiciaire. Donc en 95, tu vas quitter le FC Rouen, alors que voilà, c'est ce qu'on on peut en parler avec Mohand et avec les amoureux du FCR. Si le club n'était pas tombé en liquidation judiciaire, je pense que tu serais resté et tu aurais un petit peu encore écrit ton histoire, ta légende avec le FCR.
Ouais, tout à fait. D'autant plus que moi, le FC Rouen, j'allais le voir jouer quand j'étais petit avec un petit copain et son papa. Ça a toujours été mon club de cœur quand j'étais dans les tribunes. J'ai toujours dit un jour je jouerai sur ce terrain, donc Rouen c'était ma ville, c'était mon club. Il y a une grande histoire de football avec il y a beaucoup de joueurs algériens aussi qui ont joué.
Slemsani.
Slemsani que j'ai pu rencontrer aussi, celui qu'on surnomme l'Indien en Algérie. Mais ouais, voilà, Jamel m'a donné envie aussi de par les matchs qu'il a pu fournir au sein du FC Rouen, de continuer ma carrière là-bas. Malheureusement, par la force des choses, en 95, j'ai été obligé de partir. Et surtout, ça a créé chez moi une envie d'arrêter le football, parce que je me suis dit que depuis l'âge de 13 ans, avoir fait autant de sacrifices pour en arriver là, j'avais vraiment l'intention de quitter le monde professionnel.
Mais moi, je remarque quand même, t'as quand même une force mentale exceptionnelle, parce que pour se retrouver au chômage après une liquidation judiciaire de son club de cœur, de son club de sa ville, de là où tu es né, le FCR, tu vas rebondir à Nîmes. Enfin, ton parcours, il est exceptionnel, on y reviendra après. Tu vas marquer en finale de Coupe de France au Stade de France devant plus de 50 000 personnes et tu t'es fait la pire blessure. Et à la limite, les croisés, c'est pas la pire. Moi, on me dit la pire blessure, Omar Belbé, t'as la force de revenir. Après 2002, t'as quand même un peu rejoué au football, certes à l'échelon inférieur, mais ta force mentale, je pense, c'est ce qui te caractérise. Et quand je vois encore des anciens, pour ceux qui nous écoutent au quartier du Château Blanc ou à Saint-Étienne-du-Rouvray en Seine-Maritime, quand on dit Omar Belbé, les gens me regardent avec un grand sourire. Omar, c'est la famille, c'est un mec en or, un super mental.
C'est un gars de Rouen.
Un gars de chez lui.
Parce que la famille Belbé est à Rouen.
Ah, mais ils sont connus, la famille Belbé. Et on les embrasse d'ailleurs s'ils nous écoutent.
Ouais, un grand bonjour à toute la famille, mes cousines, mes cousins, à tout le monde. Que ce soit Naïma, Leïla, Sabah, je vais pas tous les citer parce que sinon, on en a pour 2 heures.
Grande famille.
Grande famille.
Oui, tu finiras pas, oui.
Ouais. Et je vais juste revenir un petit peu avant. Tu parles de force mentale. Je pense que je dois être franc sur une chose et reconnaître surtout et avoir beaucoup de reconnaissance pour mes parents.
Bien sûr.
Papa, maman qui m'ont donné énormément de force. Alors en me laissant ici, certes, ça a été difficile parce que j'étais jeune, j'avais 13 ans et que de s'éloigner du cocon familial, de l'amour familial, papa, maman, on les voit tous les soirs à plus rien du tout. Mais ils l'ont fait pour mon bien, je le sais, j'en suis conscient, mais c'est eux, ils m'ont tout donné, ils m'ont tout appris, ils m'ont transmis ces valeurs, surtout, valeurs que j'ai mis en application après, et je leur dois tout, sans eux, j'y serais pas arrivé.
Et encore à l'époque, Omar, ce n'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas WhatsApp pour être en contact avec papa et maman.
Exactement, à l'époque c'était une lettre par semaine, le dimanche soir en internat, et maman me répondait, papa me répondait par courrier, oui. Et puis on attendait toute la semaine pour recevoir la lettre, parce que c'était en Algérie, à plus de 3000 kilomètres,
oui.
Et c'était, je dois dire, très difficile les trois premiers mois, puisqu'ils étaient partis un vendredi à 13h,
Tu te souviens de tout ça?
Ah oui, je me souviens, puisque c'était le moment où j'étais en cours de français avec Madame Claudel, qui me dit, viens Omar, on sort, et c'était le moment où elle me prenait dans ses bras et que je pleurais toutes les larmes de mon corps, parce que c'était terrible.
Ouais.
Voilà.
Bon, mais malgré tout, comme l'a dit Yanis,
c'est ça.
Ce caractère,
ouais.
T'a permis, mine de rien, de devenir adulte, avant l'âge adulte.
C'est ça, exactement. J'ai toujours dit que cette période de ma vie où les adolescents pensent à aller manger un sandwich à McDo, Quick, sortir au cinéma, faire une partie de foot tranquillement, moi, c'était pas du tout ça. Voilà, je me projetais beaucoup dans l'avenir. Fallait pas que je déçoive, parce que malgré tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait les responsables du FC Rouen qui avaient quand même misé sur moi. Ils me l'ont dit, ils m'ont clairement fait comprendre à beaucoup de personnes, notamment moi, et ils voulaient pas se tromper, et j'avais des responsabilités vis-à-vis de ça. Mais j'avais aussi que 13 ans, j'étais adolescent. Et tout ça, ça m'a permis de grandir, de me projeter, et finalement de zapper un peu cette partie adolescente, ce qui m'a pas fait de mal en soi, sur l'instant, parce que voilà quoi, j'ai eu un temps d'avance, j'anticipais un peu les choses différemment. Et aussi, c'est ce qui m'a permis de jouer à 17 ans en équipe professionnelle.
En fait, Omar, quand on est jeune comme ça, on a tous envie de taper dans un ballon, mais nous ne savons pas ce qui se passe dans les coulisses avec les dirigeants qui peuvent mener un club comme ça à sa perte, quoi.
Tout à fait.
C'est le cas du FCR.
Tout à fait. C'est ce qui s'est passé avec, je crois qu'à l'époque c'était Guèze le.
Oui,
c'est ça.
Voilà.
Ouais.
Guèze qui était pas un bon président parce qu'il connaissait rien au foot, tout simplement. Et j'en avais, d'ailleurs, je m'étais pris le bec avec lui parce que, j'avais mon caractère aussi et il y a des choses que je pouvais pas admettre. Voilà, quand on me dit des choses, quand on parle de ma famille, faut pas y toucher. Je suis prêt à bondir, quitte à en assumer les conséquences, c'est pas un souci. Mmh. Mais au-delà de ça, il a mal géré le club. Et c'est lui qui l'a conduit à sa perte. Et c'est ce qui a fait que le club n'est même pas reparti avec le statut non professionnel comme ce qui était à l'époque.
Oui.
Mais qu'il a fait un redressement judiciaire, ce qui valait la mort du club. Mais ça, on était tous à l'époque. Il y avait de très bons joueurs. Hein. Il y avait Loulou Orlavie, il y avait Itoto, il y avait Franck Hez.
Franck Hez à l'époque, bien
entraîneur
sûr.
Entraîneur de Nice aujourd'hui. Hein.
Exactement. Ouais. Et on avait un bon gardien. On avait Palazzi que j'ai retrouvé aussi. Le Chevalier. Voilà. Il y a plein de collègues avec qui je revois, avec qui je discute. Puis c'est un gâchis. C'est un gâchis parce que le FC Rouen méritait de remonter en Ligue 2, voire
au moins, ouais. Au moins Ligue 2, Omar. Je suis d'accord avec toi.
C'est ça. Et il y a d'ailleurs aussi un fort potentiel public. En fait, le FC Rouen me fait penser un peu à ce que j'ai connu à Nîmes Olympique. C'est un public de connaisseurs, c'est un public qui aime le football.
D'amoureux, bien sûr.
Exactement. De passionnés, qui a envie, et on l'a vu avec le FC Rouen qui, en DH, on voyait des affluences au niveau.
Il y a plus de 8000 personnes. 6000 personnes.
Non, mais c'est impressionnant. Ouais, il a raison, Yanis. Le FCR, même au bas de l'échelle.
Il y a du monde.
Il y a du monde.
C'est ça.
Et Omar, je vais te poser une simple question. Toi, comment aujourd'hui tu regardes un peu quand même toujours les matchs de foot? Comment t'analyses la situation entre le FCR et QRM, Quevilly-Rouen Métropole?
C'est deux choses complètement différentes parce que d'un côté, on a un club structuré qui s'appelle QRM, qui avant s'appelait US Quevilly, que j'ai été surpris de, par rapport à l'appellation qui a changé après, j'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé, bref.
Sponsor, c'est la métropole, QRM, c'est Rouen Métropole, ouais.
Exactement. D'ailleurs, je passe un grand bonjour à Olivier Chouafny, avec qui j'étais ce matin au téléphone.
Olivier, je le connais très très bien. Voilà. Très gentil, Olivier, ouais.
Très gentil, j'étais avec lui au téléphone, on parlait de certaines choses hors football.
Ouais.
Mais, il m'a dit, si on pouvait avoir l'organisation de QRM et le public du FC Rouen, mais là, on a tout gagné. On a tout gagné, parce que quand on va voir, j'ai eu l'occasion, lors de mon année à l'université, de vivre à Rouen chez ma sœur Samia et de venir voir beaucoup de matchs, que ce soit l'USQ ou QRM ou FC Rouen.
Et, rien à voir.
Il n'y a pas photo.
Et l'ambiance, il n'y a pas d'ambiance à QRM.
Ah non, on est
faut
bien
le dire.
D'accord.
Honnêtement, non mais.
Moi, je sais parce que. Moi, j'étais pas allé, moi je dis FCR même en N2.
Mais non mais, l'affluence pour un match de QRM, l'affluence moyen, 2000, 1002 et encore. Au FCR, moi j'y vais au FCR parce que je suis en tribune de presse, j'y vais avec les amis, les collègues pour commenter. Mais des fois tu rencontres, je sais pas, tu fais Paris 13 Atlético en national face au FCR, il y a plus de 9000 personnes.
C'est ça.
Une ambiance de folie, les fumigènes, les pétards. Est-ce que aujourd'hui un club en ville, le FCR?
Il y en a beaucoup qui l'envient. Il y en a beaucoup
bien
qui
sûr.
L'envient de par son ambiance, de par son affluence au niveau du public. Il faut savoir que le FC Rouen est parmi les premières en Ligue 2. Quand on fait un combiné national Ligue 2, ça représente quand même quelque chose. C'est pas à négliger. Je pense que les collectivités, que ce soit la mairie, département, devraient regarder la chose d'un peu plus près pour donner les moyens, parce qu'on a quand même un président turc qui a mis de l'argent de ses propres deniers pour
sauver le club un petit peu.
C'est
toujours ce même problème. Toi, tu l'as liquidation judiciaire en 95. Aujourd'hui, on se retrouve un petit peu dans la même situation. Il y avait l'actionnaire turc qui est arrivé. Il a nommé Ivan Postel à la tête de la présidence. Sauf que Ivan Postel, même pas 4 mois après, il est parti. Il est parti de la présidence. Donc c'est finalement l'actionnaire qui avait mis de l'argent qui est devenu président. C'est le bordel en haut, mais finalement les joueurs suivent et la ferveur populaire suit. C'est ça qui est magnifique à Rouen.
Ouais, c'est ça. Il y a ce côté public et tout ça. Aujourd'hui, on est dans une situation au niveau du club, au niveau de l'équipe première. Et en fait, je vous cache pas que ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur parce qu'il y a eu beaucoup de départs.
Là, actuellement, bien sûr, ouais.
Des joueurs clés.
Malik Abdelmoula.
C'est ça, Malik Abdelmoula, le petit attaquant qui.
Naël Bensoula.
C'est ça, qui m'a littéralement subjugué quand je l'ai vu faire certaines performances, des triplés, des buts de...
Aïchem Benkaïd aussi.
C'est ça. Et les défenseurs, Sanson.
Valentin Sanson, effectivement,
Valentin
qui est parti.
Et puis le petit Mion.
Mathieu Mion, oui, qui est parti
Mion.
Aussi.
C'est quand même des grosses pertes.
Bah, aujourd'hui, il reste Omar Bezekami.
C'est
oui,
ça. Ouais.
Et il y a eu quelques arrivées, des joueurs de Paris 13 Atlético, des joueurs du Luxembourg, des joueurs de N2. Et aujourd'hui, Régis Brouard l'a dit en conférence de presse, il va essayer de faire au mieux, quoi. En mixer avec l'expérience qui reste, intégrer les petits jeunes de la réserve, parce que c'est aussi l'ADN des clubs rouennais, que ce soit QRM ou l'FCR, intégrer la jeunesse et les recrues pour essayer de faire un mélange. Mais aujourd'hui, comme Omar le dit, moi ça me fait peur, parce que on parlait d'une ambition dans 7 ans, la Ligue des Champions, etc. Mais aujourd'hui...
Tout ça, c'est ce qu'on appelle du
pipeau
creux.
Bien sûr, mais aujourd'hui, l'objectif, c'est le maintien.
Exactement, je pense qu'ils ont été un peu ambitieux, notamment Ivan Postel.
Trop ambitieux.
Ouais, à sortir des... Ben je lui ai dit, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, on a discuté football pendant 1h30. Alors c'est un passionné, c'est un peu un personnage haut en couleur.
Ah bien sûr.
Qui hésite pas à rentrer dans tout le monde. Mais je lui ai dit, le football c'est pas ça, quoi. Et je me suis pas trompé. Hein,
lui il était dans le basket. Hein.
C'est ça.
Parce que son fils est basketteur.
C'est ça, c'est ça.
Très bien. Alors maintenant, avant de finir cette deuxième partie, Omar, bon, Rouen c'était une histoire. Après tu rebondis... À Nîmes, comment as-tu rejoint les crocodiles?
Alors, je vais vous le dire tout simplement, encore une anecdote assez extraordinaire. Oui. À l'époque, il y a un joueur qui fait partie de l'équipe qui s'appelle Alain Espace.
Oui.
Et voilà, qui arrive de Nîmes, justement, et qui m'emmène tous les matins à l'entraînement et qui me ramène après les entraînements. On se lie d'amitié. Et il me dit, Omar, tu vas pas arrêter le football, parce que j'avais clairement dit que je voulais arrêter. Et il me dit, je vais discuter avec les dirigeants de Nîmes. Ils descendent en national, ils ont besoin de joueurs. Et je lui ai dit, non, j'irai pas. Et il a été à la gare, il a été me prendre un billet de train. Ouais, tout à fait, Mohamed. Et il m'a dit, tu vas à Nîmes. Si tu veux pas aller jouer, c'est pas grave, tu visites les arènes, le pont du Gard et compagnie.
Celle-là, c'est la meilleure.
Je t'assure. Et en fait, ben, je me suis retrouvé un 29 juillet 95 à la gare de Nîmes et je me suis fait récupérer par Pierre Mosca.
Donc, entraîneur, je me souviens de Pierre Mosca. Ouais, ouais.
Et ensuite, j'ai fait un match amical le soir contre Grenoble pour couronner le tout, une chaleur hors norme. Et une expulsion au bout de 40 minutes, donc le combo total. Et ils m'ont quand même gardé une semaine parce qu'ils voulaient voir plus de choses. Et j'ai signé le contrat en fin de semaine d'après de 1 an.
Très bien, très bien. Alors juste, on va arriver dans un instant à la troisième partie. On va passer brièvement cette carrière à Nîmes, ce moment important, ensuite cette sélection algérienne à laquelle tu as apporté, mais qui n'a pas été, on va dire, reconnaissante par rapport à ce que tu as apporté, le rôle de Nasser Sandjak dans ta convocation. Et puis, ben forcément, il restera un volet reconversion, parce que aujourd'hui, eh ben, quand on a la chance d'avoir une bonne reconversion, il faut le dire. Ça signifie que tout est possible dans le football, pour peu que l'on soit à minima sérieux. Restez à l'écoute, on se retrouve dans un instant pour cette troisième et dernière partie d'émission.
Foot de sport, Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Beurre FM. Bien plus qu'une radio.
مايستاهلوش تبغيهم كاين شي ناس مايستاهلوش توريهم كاين شي ناس الله يستر من عينيهم كاين شي ناس خدم خدم وريهم عواديه حاول عليه مبين عليه كبير عليه عواديه حاول عليه مبين عليه كبير عليه عندك الدير غلا بلاد مخاطاك في وجهك يضحك وفي ظهرك يهداك ولا لا كينا هادي ولا لا بدلا هادي دنيا بدلا هم شافوش شدروا فينا هدروا هم نخافوش خاب يشوفوا صبروا
كاين شي ناس ما يستاهلوش تبغيهم تبعوك الناس بعينيهم غير خليهم كاين شي الناس الله يستر غير اللي فيهم يهضر يهضر يبغي يغدر خليه
عواديه حاول عليه مبين عليه كبير عليه عواديه حاول عليه مبين عليه كبير عليه
ما فيهم خير كيفاش ولا بنادم ما فيهم خير هما بقاو حباب ولا صحاب وكيحلوني قلبي وليت لهم خاصو يخلص وخليتهم ربي ناري ناري خليتهم ربي ناري ناري ديروا بحالي الناس ما فيهم خير كيفاش ولا بنادم ما فيهم خير
حاول عليه مبين عليه كبير عليه حاول عليه مبين عليه كبير عليه
Hey, c'est Soprano. Tu veux un conseil? Pour te mettre bien à Marseille, rends-toi sur Get Your Guide. Je t'ai préparé un petit programme, une randonnée au parc Pastré, une dégustation au panier, plein d'activités à faire. Et attends, truc de fou. Tu peux aussi te mettre bien en Bretagne, en Italie, au Mexique, bref, partout dans le monde. Allez, suis-moi, je te guide sur getyourguide.fr.
Jusqu'à 20h, Fou de sport sur Beurre FM. Beurre FM.
Troisième et dernière partie de cette émission, interview exceptionnelle avec Omar Belbé, ancien international algérien, véritable numéro 6. Il va nous parler de cette aventure nîmoise et également de la sélection qui l'a repéré, qui lui a offert sa première convocation et naturellement cette grave blessure sur laquelle il va revenir ensuite. Passez-moi l'expression, je dirais la non-prise en charge de sa blessure. Et là, ensuite, Omar a décidé de franchir le cap, c'est-à-dire sortir carrément du foot pour... Bon, bien sûr, il a toujours un œil sur les jeunes, etc., puisqu'il a quand même l'œil de l'ancien footballeur. Mais en même temps, vous allez voir que on peut faire une bonne reconversion et assurer un bien-être, justement, aux autres sportifs qui arrivent dans la vie. J'ai à peu près 10 ce qu'il faut, Omar.
Ouais, impeccable.
Bon, alors, cette aventure nîmoise.
Alors, cette aventure nîmoise, comme je l'expliquais, c'est Alain Espèce qui, ouais, qui me prend un billet. Je me retrouve lors d'un match amical. Ça se passe plutôt bien, puisque je signe dans la foulée, et 8 mois après, on arrive avec l'équipe en finale de Coupe de France, donc
C'est quand même incroyable, cette aventure-là.
C'est ça. On passe d'un extrême à l'autre, on va dire. Voilà, d'une situation où j'arrête le football, j'ai plus envie, à jouer devant un stade plein, au Parc des Princes, 45 000 personnes, je sais plus combien de millions de téléspectateurs, j'ai pas le souvenir.
On était devant la télé, rassure-toi.
Et cerise sur le gâteau, j'ai eu l'occasion de marquer ce premier but, qui fait un peu sensation, puisque, c'est Nîmes Olympique.
Le petit poussé.
Le petit poussé, club de national qui vient bousculer le champion de France en titre et toutes ses stars internationales, pardon.
Ouais.
Et donc de là, je pense que ça a pris une tournure pour moi plutôt positive, dans la mesure où dans la foulée, on monte en Ligue 2 avec Nîmes Olympique. On a l'occasion de participer à la Coupe d'Europe et être le premier club de niveau 3 à passer des tours et arriver en 8e ou en quart, je sais plus. Et ensuite, je connais mes premières sélections avec l'équipe nationale d'Algérie. Alors, j'aurais dû y aller en 98, mais malheureusement, suite à une blessure à l'épaule, j'ai pas pu honorer ma première sélection. J'y retournerai que 1 an et demi après. Et voilà, je fais 29 sélections, je donne tout ce que j'ai quand je joue, et puis arrivent ces deux derniers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations.
C'est en 2002, je crois.
En 2002, ouais. À Bamako, où je prends un premier pet à la tête avec un trauma crânien, perte de connaissance.
C'était le Nigeria, ça?
Nigeria, c'est
en
ça.
En plus, tu rentres en fin de match.
C'est ça, ouais.
Et il y a ce choc terrible.
Ouais, ce choc terrible où je me vois même, maman avait été impressionnée, était apeurée parce que j'avais les yeux révulsés, je partais quoi en fait. Et de là, je me remets, et le coach Rabah Madjer me demande si ça va et tout ça, je lui dis que oui. Et alors il ne souhaite pas me faire jouer de la compétition parce qu'il a peur avec la blessure la première, et puis c'est moi qui insiste.
Voilà. T'as dit oui parce que, est-ce que tu étais conscient quand t'as dit oui comme ça, ou bien c'est parce que c'est cette pulsion de cette Coupe d'Afrique où tu voulais à tout prix vraiment jouer?
Alors, je voulais à tout prix jouer parce que pour moi, venir représenter l'Algérie au plus haut plan continental, c'était important. J'ai toujours souhaité ça. D'ailleurs, j'avais fait mes premières sélections en cadet.
En cadet déjà.
En cadet, ouais.
Donc le choix de l'équipe de France, c'est même pas posé.
Ah mais il s'est posé. J'ai même eu des problèmes avec Nasser Larguet en rentrant de ma sélection cadet, dans la mesure où j'avais fait le passeport en, comme on dit les jeunes, loose day, c'est ça.
Oui.
Voilà, en sous-marin et en rentrant de la sélection cadet, Nasser, il voulait m'envoyer en équipe de France. J'étais convoqué dans les 30 à Clairefontaine. Et au final, je lui ai dit que j'avais fait ça et il m'avait suspendu un mois du centre de formation.
Ah ouais, carrément.
Ouais, carrément. Il était fâché. Ouais. Et en fait, là, c'est les. Bah, il y a ce deuxième match où je dis à Madjer, je suis venu pour jouer, pas en vacances. Donc, si t'as besoin de moi, mets-moi. Donc, il m'a mis et je crois que c'était sur la fin de match où Mamadou Diarra arrive et me file un mauvais coup. Il m'explose le genou, 3 ligaments, rupture totale.
Est-ce que tu as eu Mamadou Diarra après ce tackle assassin, excuse-moi, qu'il a effectué sur ton genou?
Alors je l'ai eu par courrier. Ouais. Il m'a fait une attestation parce que ça a engendré bien évidemment beaucoup de problèmes administratifs, juridiques même, et ça a pris une ampleur qui m'a un peu dépassé. Et voilà, il a reconnu le choc rugueux lors du match France-Algérie,
ouais.
Match Mali-Algérie à la CAN. Et qu'il était plus ou moins responsable de la blessure, voilà, puisque j'avais le genou complètement cassé,
ouais,
en fait.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà. Donc après, j'ai mis 18 mois à revenir, non sans mal, dans la mesure où j'ai pas été aidé par la Fédération algérienne de football.
J'allais venir. Alors justement, grave blessure. Et pourtant, je me souviens, je t'ai eu au téléphone à une époque où tu m'avais parlé de ce problème de non prise en charge. C'était à l'époque, en gros, débrouille-toi.
Exactement. Débrouille-toi. Il m'avait demandé d'attendre une semaine au Mali pour faire des examens sur Alger. Et en fait, j'avais pas le temps, quoi. J'avais pas le temps d'attendre une semaine.
Oui.
Donc, j'ai décidé le lendemain de ma blessure de prendre mon sac, de faire Bamako-Casa, Casa à Paris, Paris-Montpellier, partir à 4 heures du matin, arriver à 23 heures. Le lendemain, le jeudi, j'avais passé l'IRM et le mardi d'après, je me faisais opérer à Strasbourg. Si j'avais dû attendre après la sélection, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas opéré encore. Et à l'époque, c'était ça. Et je suis pas le seul. Salem Harchech a vécu la même situation. On est beaucoup à voir où la prise en charge. Aujourd'hui, bien heureusement...
Ah oui, ça a beaucoup changé là.
Voilà, nos soucis de l'époque ont pu bénéficier à d'autres et tant mieux. Voilà, même si on a été un peu sacrifié, hein, ouais. Faut le dire, hein, clairement. Ben ça a servi à d'autres et tant mieux, de ce côté-là, le football a évolué et la fédération aussi.
Ouais. Et justement, Omar, pour finir sur ce volet international, on imagine à l'époque l'Algérie sort à peine de cette fameuse décennie noire et que le peuple avait besoin d'avoir une sélection. Et vous étiez cette génération. Qui nous a fait rêver, parce que moi je me souviens des Tasfaou, des Saïb, comment s'appelle avec coach Sanja qui était à la tête de cette équipe. Et il y avait des garçons, bah, t'as parlé de Salim Archech, quand même c'est une belle génération. Et même au niveau local, il y avait de sacrés joueurs. Je pense à Brahim Zarpour par exemple. Je me dis, mais on sort de super joueurs. C'était, enfin, nous qui étions à l'époque à la recherche quand même d'un peu de bonheur, eh bien, vous l'avez apporté à ce moment-là.
Ouais, bien sûr. Tout d'abord, moi, je connaissais Nasser de France, puisque je jouais contre lui quand il était entraîneur du côté de la région parisienne à Noisy-le-Sec.
Oui, oui.
Et à chaque fois, il me disait, pour parler poliment, il me disait, tu fais chier, tout machin sur le terrain. Alors d'un côté c'était les Belkebla à Aubervilliers et de l'autre côté c'était les Sanjak à Noisy-le-Sec.
Je suis d'accord.
Voilà. Non, c'était des très bons moments qu'on a pu partager ensemble, ou l'un contre l'autre, peu importe. Et après Nasser m'a envoyé ma première convocation et je lui suis très reconnaissant. Et c'était un très bon entraîneur, un très bon meneur d'hommes. Et il avait l'équipe, mais on n'avait pas les moyens, les conditions n'étaient pas réunies. D'un point de vue organisation, structure, entraînement, faut savoir qu'on a pu s'entraîner avec une petite équipe locale. Nous, on était quand même l'équipe nationale d'Algérie. On va s'entraîner et l'équipe régionale de Rouiba s'entraîner, ouais, sur la deuxième partie de terrain. Faut être sérieux à un moment donné, quoi.
Et me parler de ça, et me dit, tu sais, si on avait eu un minimum, peut-être qu'on aurait été en finale de Coupe d'Afrique.
Comme tu l'as dit, on avait des joueurs, on avait Ali Ben Arbia, on avait Adjaoud Meniri, oui. On avait des super Mounir Zerdoud,
oui.
Belmadi, Kraouch.
Il y avait Kraouch, oui, c'est vrai.
Ouais, Nassardine Kraouch, ouais. Et voilà, qui a un peu disparu des écrans, mais il y avait les joueurs, il y avait le potentiel, mais les conditions étaient pas réunies pour faire une très belle équipe.
Omar, moi j'ai juste une simple question pour revenir sur la Coupe d'Afrique 2002. Est-ce que avec le recul, maintenant je dirais que tu as plus mûri parce que la Coupe d'Afrique c'est un souvenir mais c'est derrière toi. Est-ce qu'aujourd'hui encore tu en veux à Mamadou Diarra? Parce que il faut être franc. Ce qu'il a fait ça aurait pu être évité. Ça a été fait dans une inconscience, dans une imprudence totale. Excuse-moi, il t'a pété le pied, il t'a pété le genou, je sais pas comment dire ça.
Eh ben c'est simple, Yannis.
C'est grave.
Moi je te réponds, ça s'est joué au Mali, c'était Mali-Algérie, il fallait que le Mali passe. Et à l'époque, la CAF fermait les yeux.
C'est exactement ça, parce que lors de cette action, il n'y a même pas eu un...
Un rouge.
Il y a eu...
Même non, pas un jaune.
Il y a ne serait-ce qu'un coup franc.
Ouais.
Un coup franc, un pénalty, il n'y a rien eu de tout ça. L'arbitre a dit jouer, tout simplement. Et ce qui est dommageable... C'est que ils se sont pas rendu compte tout de suite parce que le Mali gagnait 2-0. Il y avait pas d'incidence sur la suite de la compétition pour eux. Mamadou Diarra avait blessé très gravement à la mi-temps Hafid Tasfaout avec une double fracture de la mâchoire. Après, il m'a explosé le genou. Je pense qu'à un moment donné, l'arbitre aurait dû quand même être un petit peu plus à l'écoute et sanctionner. Mais après, ça reste son jeu et surtout, ce qui m'était destiné ne pouvait pas arriver à un autre et c'est comme ça que je le vois.
Mais Tasfaout, je me rappelle, il a perdu sa langue face au Mali.
Il avait avalé sa langue, oui, tout à fait.
Aïe.
Voilà, tu vois, souviens. Donc finalement, à l'époque, aujourd'hui, fort heureusement, qu'au niveau africain, il y a la VAR et la VAR, elle sauve pas mal de situations. Sinon,
tu as raison.
On continue comme avant. Pour finir, il nous reste un volet reconversion. Quand as-tu décidé, on va dire, de t'éloigner du football pour vraiment entamer une vraie carrière de reconversion? Et surtout, quel métier as-tu choisi?
D'accord. Alors, tout de suite après ma dernière saison à Wascal, puisque j'ai fait une dernière saison 2003-2004. Et en fait, j'ai fait une année, parce qu'ils étaient pas sûrs si j'allais tenir et tout ça. Je fais 36 matchs sur 38, je crois, en tant que titulaire. Donc, mon genou tient bien, j'ai le rendement qu'il faut. Et il me propose surtout une prolongation de 2 ans de contrat. Et moi, je décide d'arrêter parce que il y a plus cette flamme, la fée du football, cette fibre pour laquelle je me lève tous les matins. Je vais faire partie d'un groupe. J'ai plus envie de tout ça. Donc j'arrête. Je fais mes premiers diplômes d'entraîneur et ensuite je me rends compte que j'ai pas envie de rester dans le football et je fais un dernier diplôme d'état que j'obtiens et je décide d'aller travailler avec un copain qui avait une boîte dans la maçonnerie, découvrir autre chose.
Ah, carrément?
Carrément. Je savais pas ce que c'était un tournevis cruciforme, un tournevis plat. Et je me retrouve à monter des appartements, à faire des sols, des plafonds, et j'y prends plaisir. Et après, j'ai travaillé aussi dans une ferronnerie. Et ensuite j'ai repris un peu peut-être une dizaine d'années après dans un petit club qui m'a sollicité, club de quartier sur Nîmes, et voilà, on a évolué avec les jeunes de quartier et j'ai fait archiviste polyvalent. Et là, il y a 2 ans, je me rends compte que il y a le sport qui revient taper à la porte. Mais il y a aussi cette volonté de se sentir utile. Alors je fais un peu le point et je me rends compte qu'il y a une licence qui existe à la fac, alors que j'ai jamais mis les pieds au...
C'est quand même extraordinaire, oui.
Au lycée, oui. Et j'ai arrêté l'école en terminale. Et je me renseigne sur cette licence, une licence STAPS, Activité Physique Adaptée Santé. Et Yannis, tu dois connaître, tout le cursus de la fac et tout ça, je rentre, je suis un peu perdu, il me faut 3 mois pour me voilà, pour me repérer et tout, et je boucle le premier semestre, je le valide.
Mais
et
non.
Oui.
Et mais attends, t'es parti à la fac à Mont-Saint-Aignan.
À Mont-Saint-Aignan.
Et ben voilà.
C'est ça.
D'accord.
Je te dirai en off pourquoi après.
C'est ça. Et le deuxième semestre, pareil, et je termine avec l'obtention de la licence et mention bien.
C'est magnifique.
Et pour exercer quel métier aujourd'hui alors?
Alors pour exercer un métier qui me tient vraiment à cœur, parce que j'ai commencé au mois de mai, là, le 19 mai, au centre Calvé, la fondation d'Opal à Berck-sur-Mer, qui est un très gros centre.
Je connais, ouais.
De rééducation en orthopédie et en neurologie, où j'exerce l'activité physique adaptée pour tous les patients. Alors je côtoie chaque jour des personnes extraordinaires avec qui j'échange énormément, et surtout je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à les voir évoluer, à les voir arriver tout le matin en balnéothérapie avec le sourire, avec des petits croissants pour certains. Et c'est magnifique.
Ça change la vie?
Ça change la vie, ça vous donne le peps pour continuer. Ouais. Et puis les voir surtout arriver avec leur handicap qui leur est propre et pas des moindres, hein. J'ai quand même des personnes tétraplégiques, paraplégiques, Alzheimer, des maladies, si je vous en cite, vous allez me dire mais tu nous parles chinois, la maladie de McArdle, la maladie de Pompe, qui sont des maladies rares d'un point de vue génétique, et j'arrive à faire du sport à ces personnes-là qui ne bougent pas tous les membres.
On arrive à la fin de cette émission. Franchement, ça a été
un honneur.
Surtout un moment de plaisir.
Bien sûr.
Vraiment, et puis, on le connaît bien, Omar, quand on l'a sollicité, il n'a pas dit
toujours
non. Bah, de toute façon, il le sait, quand il entend Mohand ou Yannis, il ne va pas dire non. Parce qu'on s'est déjà eu au téléphone. Il m'avait même parlé de quand il était encore dans le milieu, des joueurs qu'il a fait connaître à la sélection. Je n'en dirai pas plus. Merci d'avoir été notre invité pour ce foot de foot exceptionnel, Omar.
Mohand, Yannis, merci. Je vous remercie amplement. Ça a été un véritable plaisir de venir participer à l'émission et puis échanger avec vous. Et surtout, merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ma nouvelle vie d'enseignant en activité physique adaptée, qui est un pur bonheur.
Jusqu'à 20h, retrouvez Fou de sport tous les dimanches de 18h à 20h avec Mohand Marouf sur Beurre FM. Beurre FM.
مش هنسيبك ولا يوم ولا عارضة عايز نشوفك كل يوم ولا واحدة تبني انا هكذا بيتك انا ليا حياتي انت هي سرابي اللي جاتك ليا عجبتني حتى اغليا سرابي اللي جاتك ليا عجبتني حتى العقليا القمر ده ايه ده قولي كملة جامدة
plus qu'une radio.
Très fort, je suis en retard, toujours attendu. Je la capte quelque part, elle a répondu. Dehors, les gens sont tellement tendus. Coup de feu par la fenêtre, on a entendu. Entre les plumes, les étoiles ont disparu. Des visages fermés sur toute la rue. J'ai tout vécu, j'ai fait tous les manèges. J'ai déçu, j'ai créé plein de malaise.
الميزان شحال سمع كيف فلان وفلان اندام والحق يبان قاع شهود عليا وفي حكايتك ماني خوان اليوم ما تسالي عني يا وعطيتك شي اللي كان في ظلام الليل غرقت ما لقيت العزية فيك نخمم في الجرح اللي يريب زاتية غرصني أنا نسيتك يا عهد وغليان كتب بالمكتوب وزان ودموعك بيدان شربنا ورمينا الكيسان يا غرك الشيطان وفيهم درتي لمال